C'est le grand chantier culturel d'Emmanuel Macron, la Cité internationale de langue française dans le château de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. Il ouvre bientôt ses portes au public. Le président de la République viendra l'inaugurer demain. C'est à la fois un projet culturel et politique dans un territoire marqué par la désindustrialisation, le chômage et le vote d'extrême droite. Pour en parler ce midi, son directeur Paul Rondin est en ligne avec nous. Bonjour Monsieur Rondin.
Bonjour.
Alors avant même de nous dire ce que l'on pourra voir et entendre dans cette cité dédiée à la langue française, le lieu, le château de Villers-Cotterêts, est à plusieurs titres symbolique.
Oui, c'est extraordinaire parce que c'est là que François Ier a signé en 1539 l'ordonnance qui fait du français finalement une langue d'égalité, puisque il donne aux habitants du royaume la possibilité d'être administrés et d'être jugés dans une langue commune. Donc c'est une décision très 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 précurseuse. On n'est qu'en 1539, je le rappelle, et on le fait non pas pour écraser ou diminuer les langues régionales, mais pour remettre le latin à sa place, si je puis le dire ainsi. En tout cas, rendre vraiment possible l'échange, le partage entre tous les habitants d'un même royaume.
Alors c'était quand même un château en piteux état.
Ah ben le château était dans un état terrible parce que après 300 ans de gouvernance par diverses cours, il est devenu une garnison, puis un centre, j'allais dire, de détention presque pour les indigents, puis une maison de retraite, et avec des transformations qui l'ont effectivement au fil du temps délabré. Et en 2014, le dernier retraité est parti, laissant le château se délabrer encore un peu plus.
Alors ce château n'avait jamais été ouvert au public, plus de 210 millions d'euros ont été investis, ce qui en fait, je le disais, le deuxième plus gros chantier culturel du président Macron après Notre-Dame de Paris. Alors que pourra-t-on y voir ?
Alors, oui, 210 millions d'euros, c'est le budget qu'il fallait à la fois pour sauver ce château, le restaurer, mais surtout peut-être en faire un équipement culturel nouveau dans un territoire qui n'avait pas d'équipement culturel de cette dimension-là, nationale. Et on pourrait y voir beaucoup de choses, c'est-à-dire outre voir apparaître un château de la Renaissance qui n'est pas tout à fait rien, c'est-à-dire 500 ans plus tard, tout d'un coup, ce château de François Ier va être visitable. On verra surtout un parcours permanent sur la langue française et les cultures francophones, une chose très étonnante que j'aime bien appeler une sorte de fête foraine des mots et des langues françaises dans toute leur diversité, très interactif, on pourra jouer, on pourra se divertir avec beaucoup de sérieux, mais une exigence populaire qui correspond vraiment à la ligne de ce projet. Et puis, dans ce château, vous aurez une salle de spectacle, des cours où l'on pourra faire des fêtes, où on pourra voir des spectacles de théâtre, de chansons, de rap, et aussi faire de la recherche, puisqu'il y a 12 ateliers pour des résidents, à la fois les artistes, mais aussi des chercheurs, ayant pour sujet commun cette langue française ou ces langues françaises.
Alors, expositions, spectacles, résidences d'artistes et de chercheurs doivent en effet faire vivre le lieu. C'est un projet difficile parce que c'est un territoire difficile, reconnaît même une source au gouvernement. Hein. Mais quel message porte cette cité ? Quel public cherche-t-on à attirer ?
Alors, c'est un message difficile ? Non, je ne crois pas. C'est un message assez joyeux et puissant. La langue, qu'elle soit française ou que ce soit une autre, c'est ce qui nous fait vibrer intimement et ce qui nous permet de partager la parole avec tous les autres, donc de faire société. Donc, c'est plutôt, au contraire, un projet certes ambitieux, mais qui est un projet d'avenir et un besoin. Alors, le territoire n'est pas en difficulté. Le territoire est d'abord beau. Il est puissant d'une tradition littéraire. Vous savez, c'est le pays d'Alexandre Dumas, de La Fontaine, de Paul Claudel, de Racine. Enfin, ça n'est pas tout à fait rien. Donc, il y a aussi ce désir de marier, de faire vivre ensemble nature et culture depuis toujours. Et au fond, on est à un endroit, oui, de grand projet de politique publique de la culture nécessaire à ce territoire.
Merci Paul Rondin. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Cité internationale de langue française dans le château de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, et il sera inauguré demain par Emmanuel Macron.
Une cité internationale de la langue française inaugurée aujourd'hui au château de Villers-Cotterêts. Mais attention à ne pas renforcer des mythes fondateurs, préviennent des chercheurs. Explication à suivre. 3 ans de restauration, 210 millions d'euros investis et voilà la Cité internationale de la langue française prête pour l'inauguration ce matin par Emmanuel Macron au château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Le plus important chantier culturel du chef de l'État après l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est dans ce château que François Ier a signé en 1539 l'ordonnance imposant l'usage du français dans les textes officiels. Mais le choix du lieu est critiqué par des chercheurs, membres du réseau francophone de sociolinguistique. Villers-Cotterêts conforterait des mythes fondateurs aux dépens d'autres langues premières dans les régions, départements et territoires d'outre-mer. Les précisions de Benoît Grossin.
Le fait même de créer cette cité dans le château de Villers-Cotterêts me semble être un contresens historique.
Le professeur de sociolinguistique Philippe Blanchet, inventeur du concept de glottophobie sur les discriminations linguistiques, conteste la mise en avant de l'ordonnance de Villers-Cotterêts.
Cette ordonnance ne disait pas qu'il fallait obligatoirement utiliser le français et seulement le français. Emmanuel Macron a même été jusqu'à dire que l'ordonnance de Villers-Cotterêts était une décision pour que les Français parlent français. Président qui renforce les mythes fondateurs de l'identité nationale française.
Que la place du français serait à la fois très ancienne, exclusive, plus du tout discutable, alors que la France est, dit-il, un pays extrêmement plurilingue.
Rappelons qu'au début du XXe siècle, une minorité de gens encore parlait français en France, et la grande majorité des citoyens français dans les départements et territoires d'outre-mer ont comme langue première une autre langue que le français, qui n'est pas leur langue de la vie quotidienne. À La Réunion, 80% des enfants arrivent à l'école en parlant créole et en ne parlant pas français.
Alors que le français est depuis 1992 inscrit dans la Constitution comme la langue de la République, la salle dédiée aux langues régionales dans le parcours permanent de la Cité internationale ne va pas assez loin, selon lui, dans leur reconnaissance.
C'est dans le fait de les considérer comme des langues en surplus, des langues secondaires. Dire c'est la langue de la République et des langues dans la République, ça crée une hiérarchie de régime juridique. On est donc bien dans une démarche qui consiste à imposer le français et à essayer de justifier cette forme d'autoritarisme linguistique.
Philippe Blanchet, comme beaucoup d'autres sociolinguistes, espère de prochaines avancées pour le respect des droits linguistiques.
L'autre objectif de cette cité est plus personnel. C'est l'occasion pour Emmanuel Macron de laisser sa marque, analyse l'historien Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire.
Tous les présidents ont laissé une trace, ont voulu laisser une trace dans l'histoire patrimoniale française. Et c'est vrai que Emmanuel Macron a toujours été un président qui s'attachait à la mémoire historique par un bon nombre de commémorations et autres cérémonies. Et donc c'est vrai que pour lui, particulièrement, c'était important de trouver un moment et un événement qu'il pouvait inscrire comme ça dans son action patrimoniale. Et particulièrement pour un président, là encore, qui a été plus un président à réaction, étant confronté à une série de crises, celle des gilets jaunes, celle du Covid, celle de l'Ukraine, etc. Donc il lui manque quelque chose qui inscrira sa trace dans l'histoire présidentielle, dans l'histoire tout court de notre patrimoine historique. Et donc je pense que pour lui c'était une occasion rêver de remplir ce rôle. Peut-être d'autant plus que c'est un président très très jeune et que il aura peut-être l'occasion, je dirais, de se satisfaire personnellement de la trace qu'il aura laissée.
L'historien Jean Garrigue, des propos recueillis par Gwendal Lavina. La Cité internationale de la langue française ouvrira ses portes au public mercredi.